sensibiliser, informer. Bienvenue à l'Académie. Le podcast que vous écoutez a été réalisé par le Mouvement des entreprises de France et réalisé à partir d'une session de sensibilisation. Bonne écoute.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce quatrième webinaire organisé par l'Académie à l'occasion de la semaine de l'entreprise responsable et inclusive. Je rappelle que l'Académie, c'est l'organisme de formation intégré au MEDEF qui a pour objectif de participer à la transmission des informations stratégiques auprès du réseau MEDEF et de l'ensemble de l'écosystème, ça va des entreprises adhérentes en passant par les mandataires et tout le réseau territorial également. Je laisse la parole à Monsieur Berlioz.
Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir pour ce webinaire de l'Académie sur une thématique qui est au cœur des préoccupations d'un certain nombre d'entre vous, je n'en doute pas, les limites aux obligations de transparence dans la communication sur la durabilité, la communication d'information sur la durabilité. À mes côtés, nous avons la chance d'accueillir à ce webinaire tout d'abord Alice Gaillard, avocate au cabinet de Pardieu Broca Maffei, qui est spécialisée sur ces questions d'ESG et également de régulation plus largement, après un passage chez plusieurs régulateurs, entre ses activités d'avocat. À mes côtés également, Sébastien Mandron, qui est directeur RSE chez Worldline et également administrateur au C3D, le Collège des directeurs du développement durable. Donc, nous avons des acteurs particulièrement avertis de ces sujets pour vous faire part à la fois des problématiques concrètes qui peuvent être rencontrées et des questionnements juridiques et surtout de la manière dont on peut appréhender via les textes ces différents sujets. Alors, pour rappel, sur la CSRD, donc je vais évidemment pas vous refaire tout l'historique et surtout le contenu de la CSRD, l'idée n'est pas que l'introduction soit plus longue que le reste, mais vous savez évidemment l'objectif de la CSRD est de mettre en place une transparence sur les enjeux environnementaux, sociaux et également de gouvernance des entreprises. C'est la dernière pierre, je ne sais pas si on devrait parler de pierre d'ailleurs, mais plutôt de muraille en la matière et qui aujourd'hui concerne un certain nombre d'entreprises puisque les premiers rapports de durabilité sont en cours d'élaboration et donc évidemment on voit aujourd'hui un certain nombre de questions se poser et notamment dans le cadre du comité finance durable et reporting ESG que je co-préside, les sujets des limites de la transparence commencent à remonter, y compris parce que la gouvernance d'un certain nombre d'entreprises se préoccupe de ces problématiques, y compris dans une perspective concurrentielle, dans une perspective de compétitivité, puisque cette communication, c'est à la fois un travail assez conséquent, mais c'est aussi une particularité qui aujourd'hui concerne nos entreprises européennes et au premier chef françaises, puisqu'on est parmi les premiers pays à avoir transposé, mais qu'on ne retrouve pas, ou pas de la même manière, dans nombre d'autres pays. Et donc, c'est aussi un questionnement en termes de common level playing field pour nos entreprises. Donc, aujourd'hui, c'est une question. C'est une question qui se pose. J'ai des obligations de transparence, mais jusqu'où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je dois dévoiler? Qu'est-ce que je peux ne pas dévoiler dans le cadre de mes obligations de transparence? Obligation de transparence, de communication d'information, j'insiste sur ce point puisque la CSRD n'impose pas d'obligation comportementale, la CSRD n'impose pas d'obligation de faire, d'action positive en matière de durabilité, mais d'indiquer ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, le cas échéant, en matière de durabilité et pourquoi on agit ou on n'agit pas dans ces différents domaines. Donc, on est avant tout sur des obligations de dire et dont il faut aussi mesurer l'ampleur, la portée et le contenu exact. Et c'est l'un des sujets qui seront récurrents dans nos discussions, c'est au premier chef, qu'est-ce qu'on est obligé de dire et qu'est-ce qu'on n'est pas obligé de dire, puisque c'est la première limite à la transparence. Donc, le premier point sur lequel on va s'arrêter, bien sûr, ce sont les exigences de transparence sur les enjeux ESG, avant de nous intéresser aux limites qu'on peut identifier, mais déjà, quelles sont ces exigences, quelles sont leurs portées. Première question, premier sujet, en matière d'identification des enjeux ESG, c'est le début du travail, hein, c'est la première élément, la première étape majeure, et au travers de cet exercice que certains d'entre vous qui êtes connectés connaissent peut-être déjà de manière concrète, que les autres appréhendent sans doute, qui est cet exercice de double matérialité, la détermination de cette matrice. Alors, sur cette question des identifications des enjeux ESG, donc, concrètement, peut-être pour commencer, Sébastien, comment est-ce que ça se présente dans la démarche et dans cette élaboration du rapport?
Alors, donc, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que donc, cette réglementation, elle est complète, exhaustive, et donc ce qui est demandé en fait à chaque entreprise, c'est d'identifier les éléments qui sont matériels. D'accord ? C'est-à-dire que la documentation est extrêmement détaillée, mais ce qui est demandé à l'entreprise, c'est d'identifier au sein en fait de cette documentation ce qui fait du sens pour elle. D'accord ? Donc ça veut dire que c'est un premier filtre, c'est-à-dire qu'on ne demande pas de répondre en fait, de couvrir tous les domaines, que ce soit la biodiversité ou l'eau ou l'économie circulaire. Ce qui est demandé, c'est de faire cette analyse de matérialité et donc d'identifier, au regard du secteur d'activité d'entreprise, donc si vous êtes dans le retail, voilà, ça va être différent de si vous êtes dans l'automobile, dans le transport, de sélectionner les éléments qui ont du sens pour vous, qui est matériel. Et donc concrètement, les choses qui peuvent vous impacter si le réchauffement climatique continue à s'aggraver, ou comment vous pouvez y contribuer, ou en tout cas l'accélérer. Donc c'est ça le premier filtre qui permet d'identifier fondamentalement ce qui a du sens. Et donc il y a forcément des choses que vous allez rejeter. Donc si je vous donne quelques exemples, si vous êtes dans l'industrie automobile, vous n'allez pas reporter sur le bien-être animal. Par contre, si vous êtes dans la grande distribution et que vous distribuez des produits qui viennent de l'agriculture à des animaux, que ce soit des poules, des bœufs, des veaux ou ce genre de choses, vous allez être questionné du coup sur la partie, en particulier sur le transport. De la même manière, si vous êtes dans le service, vous pouvez pas du tout avoir d'impact sur les problématiques de biodiversité. Donc ça, c'est le premier filtre. La matrice de matérialité, elle vise à vous concentrer sur les thèmes qui font du sens et qui répondent fondamentalement à une question assez simple qui est qu'est-ce qui peut mettre en danger votre business model? Quels sont les nouveaux risques extra-financiers qui pourraient faire que votre entreprise pourrait avoir une perte de chiffre d'affaires, une perte de marge? Et à partir de là, en fait, c'est là que commence en fait le niveau d'information qu'il faut que vous mettiez à disposition. Voilà.
Alice, sur cette démarche, sur cette analyse, donc il y a les résultats, il y a la méthode, il y a le process. Dans tout ça, qu'est-ce qu'on publie, qu'est-ce qu'on communique, quelles sont les informations qu'on donne?
Oui, alors sur cette partie-là, il n'y a malheureusement pas énormément de marge de manœuvre. C'est-à-dire que, comme vous venez de le dire, c'est une analyse qui doit être faite par les entreprises, par toutes les entreprises, d'évaluer les risques qu'elle peut subir ou qu'elle peut faire subir dans l'écosystème dans lequel elle s'inscrit. Et cette analyse-là, elle doit obligatoirement être faite. Et une fois que chaque entreprise a déterminé les enjeux, on va les appeler enjeux ESG aujourd'hui, qui sont importants pour elle, elle est soumise aux obligations de publication qui sont prévues par les ESRS et elle n'a pas tellement de marge de manœuvre, modulo ce qu'on va se dire tout à l'heure sur les fameuses limites à la publication. Mais en tout cas, l'établissement de cette matrice de double matérialité, elle est obligatoire. Et au-delà du fait qu'il faut qu'elle soit faite, il ne suffit pas de publier le fameux tableau avec les risques avec la double matérialité, il faut aussi publier la façon dont on a travaillé pour en arriver là et publier la méthodologie qui a été retenue et notamment décrire comment on a pris en compte les avis des parties prenantes parce que ce n'est pas un exercice qu'on fait seul dans l'entre-soi de l'entreprise, mais les ESRS exigent que les parties prenantes soient aussi impliquées dans cet exercice-là et qu'on explique la façon dont c'est fait. Et ce dont on se rend compte, mais Sébastien pourra compléter sur ce sujet-là, c'est que les auditeurs de durabilité qui sont en train de travailler sur les premières matrices de double matérialité des émetteurs qui vont publier l'année prochaine remettent souvent en cause la méthodologie qui a été retenue et évidemment ensuite la façon dont elle sera présentée dans le rapport de durabilité. Mais peut-être que Sébastien, sur ces sujets-là et sur la méthodologie, tu peux nous en dire deux mots.
Alors, donc, en termes de méthodologie, ce qui est attendu, c'est vraiment une analyse de risque, surtout ce qui est extra-financier, donc de passer en revue les différents bruits des ESRS et de se poser à chaque fois la question de savoir en fait quels sont les impacts. Donc ça c'est la méthode. Après, pour les gens qui ne connaissent pas du tout le sujet, il ne faut pas surcomplexifier le sujet. C'est-à-dire que les matrices de matérialité, ça fait 10 ans en fait, que les directeurs RSE ils en font. Et globalement, ça fait 10 ans que les directeurs RSE ils identifient à chaque fois qu'est-ce qui crée un impact pour l'entreprise. Donc, pour les gens qui débutent, la bonne nouvelle, et les bonnes nouvelles, c'est que les matrices de matérialité, elles sont globalement sectorielles. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le transport, bah, vous attrapez globalement un petit peu les mêmes sujets que tous vos concurrents. Il n'y a pas trop de raisons qu'une entreprise traite un sujet plutôt que l'autre. Et donc, ça doit vous guider dans vos analyses de risques. Et à chaque fois que vous avez des risques, il faut identifier la survenance du risque et puis l'impact associé du risque. Vous pouvez aussi identifier les opportunités, bien évidemment. Vous pourriez avoir des bénéfices à ces différentes transformations. Mais globalement, pour ceux qui débutent, les publications sectorielles, les publications des filières, doivent vous permettre en fait, de faciliter cet exercice et d'identifier assez vite fondamentalement, là où vous devez vous positionner et là où vous devez en fait, passer un peu plus de temps.
Et après, l'autre exigence des ESRS sur la matrice de double matérialité, c'est qu'une fois que vous avez identifié les enjeux ESG qui sont importants pour vous, que vous avez expliqué comment vous les avez identifiés, il faut que vous expliquiez pour chacun d'entre eux pourquoi c'est important pour vous et quand vous en avez écarté, pourquoi ça n'était pas important pour vous. Et ça, c'est aussi une exigence qui doit être publiée dans le rapport de durabilité, il ne suffit pas de dire j'ai un enjeu sur tel thème et de s'arrêter là, il faut expliquer pourquoi pour vous c'est important et en fait on va voir après que c'est nécessaire parce que ensuite il va falloir que vous déterminiez pour chacun de ces enjeux des politiques, des plans d'action, etc. Pour réduire le caractère important de cet enjeu-là pour vous. Et ça c'est toute la suite, mais dans un premier temps, cette obligation-là, elle pèse sur toutes les entreprises. Et pour essayer d'identifier les enjeux principaux, les enjeux ESG principaux dans les ESRS, vous avez toute une liste qui est faite, qui vous permet d'avoir un premier guide pour essayer de voir quels sont ceux qui peuvent vous impacter, vous, au premier chef, avec le filtre que disait Sébastien tout à l'heure en fonction de votre secteur d'activité. Et effectivement, n'hésitez pas à vous référer aux déclarations de performance extra-financière qui peuvent être publiées par des sociétés qui sont dans le même secteur que vous, parce que, comme le dit Sébastien, ça fait un moment que ces entreprises-là publient des choses, et c'est toujours bien de s'inspirer de ce qui se fait dans son secteur.
Ça, cette dimension sectorielle, finalement, elle est effectivement, on va dire, identifiable au travers d'un certain nombre de publications qui ont été faites, et elle est partagée par un certain nombre d'entreprises, dès lors qu'on est dans le secteur. Le point un peu plus sensible, c'est ce qui est important pour moi, et surtout, c'est le lien qu'on fait avec sa stratégie, son modèle économique, son modèle d'affaires. C'est là qu'on peut commencer à se poser la question de jusqu'où il faut aller, quels sont les éléments qu'on doit révéler, quels sont les points véritablement qui sont dans l'obligation à ce sujet-là.
Effectivement, en fait, une fois que vous avez identifié vos enjeux ESG pour chacun d'entre eux, les fameuses ESRS vous imposent de faire le lien entre cet enjeu-là et la façon dont votre stratégie et votre modèle économique est adapté à l'enjeu que vous avez identifié. On parle d'enjeu, mais c'est beaucoup des risques. Et en fait, l'idée, c'est d'expliquer comment votre entreprise est résiliente par rapport à ces risques et comment elle va les gérer. Et du coup, il y a un certain nombre d'exigences de publication qui sont posées par les ESRS pour chaque enjeu. La première exigence de publication, qui est importante parce qu'en fait, on voit qu'il y a des chiffres qui vont devoir être publiés. C'est des chiffres qui, jusqu'ici, étaient parfois évalués en interne, mais jamais publiés. Mais par exemple, la première exigence qui est posée par les ESRS, c'est de publier le montant de l'effet, de l'impact financier que peut avoir l'enjeu important que vous avez identifié sur votre position financière, sur vos résultats financiers. Et donc, vous allez avoir, en fait, on le voit déjà dans quelques déclarations de performance extra-financière, vous identifiez un risque, un enjeu ESG qui est susceptible d'avoir un impact financier sur vous, et vous allez devoir mettre un montant en fait en face pour dire combien ça coûterait s'il survenait. Et on voit par exemple dans les déclarations de performance extra-financière des tableaux où il y a le risque qui est identifié, par exemple le risque climatique. Il y a une colonne où on vous dit c'est plus probable qu'improbable de très probable certain, peu probable qu'il arrive. Une colonne avec l'horizon, court terme, moyen terme, long terme, et puis une colonne avec impact financier. Et pour l'instant, les impacts financiers qu'on peut voir, c'est par exemple l'impact financier sur la marge opérationnelle du groupe avec des fourchettes faibles, moyennes, élevées de plusieurs dizaines de millions d'euros. Et ça, c'est une obligation à laquelle seront soumises toutes les entreprises de devoir publier le montant de l'impact avec un horizon court, moyen, long terme dans leur rapport de durabilité pour les enjeux ESG identifiés.
Alors, si on prend juste quelques petits exemples pour être un peu concret. Donc, typiquement, vous pourriez avoir une exposition à risque climatique qui viserait à dire si le réchauffement climatique s'aggrave, mon usine va être inondée. Et donc, par conséquent, je ne serai plus en mesure de produire. Et à partir de là, je vais évaluer les pertes de chiffre d'affaires. Donc, si vous projetez typiquement sur ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'entreprises dans nos départements qui vont du coup être obligées de fermer leur bâtiment, leurs usines, et qui ne vont pas être en capacité de produire. C'est clairement ce qui a identifié. C'est clairement ce qui a identifié. Et donc, ce sur quoi va pousser la CSRD, c'est bien de dire, en cas de réchauffement climatique, j'ai des usines qui peuvent connaître des ruptures de fabrication, je dois les évaluer. Voilà. Et c'est là qu'on a le risque financier à proprement parler. Et donc, la question qui arrive derrière, c'est très bien, quel est votre plan de transition? Quels sont les moyens financiers que vous allouez pour vous protéger contre ce risque? Donc là, je vous ai pris un cas typique d'inondation, mais vous pouvez avoir la même logique sur... là, il y a un article qui est sorti récemment sur le prix du jus d'orange. L'élévation des températures fait que certaines géographies ne permettent plus de produire de l'orange ou produire en fait des capacités plus faibles, avec donc du coup à la clé une augmentation du prix de l'orange, et donc ça se traduit sur un fabricant d'orange, une augmentation de son produit fini, et donc avec potentiellement une baisse des ventes, et puis certaines géographies sur lesquelles il ne va plus vendre. Et donc vous voyez que dans les deux exemples que je vous ai illustrés, soit vous avez une perte de chiffre d'affaires pour la simple et bonne raison que vous ne pouvez pas produire, ou, autre cas, vous avez une difficulté potentiellement de rentabilité, puisque vous avez une augmentation en fait de votre matière première qui fait que vous êtes pris entre l'augmentation des prix de la matière première et ce que vous bien payer les clients. C'est typiquement et concrètement ce qui est attendu en impact, à proprement parler, en risque financier, avec derrière la problématique de dire ben voilà comment je me protège. En fait, dans mes deux cas, premier cas, soit je mets une digue autour de mon usine, soit je la déplace, voilà, et ça va me coûter tant, et donc j'annonce le chiffre, ou bien je vais décrire que, eh bien, avant je faisais du jus d'orange, et maintenant je ferai du jus de raisin. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je me protège, c'est comme ça que je protège mon business model. Et vous voyez que dans les deux cas, je me suis bien adapté à un risque qui est clairement identifié.
Et oui, et effectivement, Sébastien est passé à la deuxième exigence parce que la première, c'est si le risque arrive, quel est l'impact financier sur moi? Et la deuxième exigence de publication, c'est de publier le montant que je vais engager pour pouvoir diminuer mon risque. Et c'est le deuxième encadré. Et puis, à chaque fois, c'est des effets actuels et anticipés. Donc, on est vraiment sur du prospectif, un peu toujours dans cette réglementation-là. Et du coup, aujourd'hui, CSRD, les ESRS exigent que si vous mettez en place des CAPEX et des OPEX pour réduire les risques et les enjeux ESG que vous avez identifiés, vous devez publier un montant. Et par exemple, alors c'est les exemples que vient de donner Sébastien, mais vous avez... aussi, pareil, dans les déclarations de performance extra-financière qui ont été publiées l'année dernière, on voit que certains émetteurs se sont pliés à l'exercice et disent que pour pouvoir leur permettre de mettre en œuvre leur plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre et arriver au zéro émission nette, eh ben, ça va leur coûter 28 millions d'euros. Voilà. Et ces chiffres-là, en fait, vont devoir être publiés dans les rapports de durabilité, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Et en fait, jusqu'ici, on était souvent capable de dire quel est l'impact financier si le risque survient. On n'évaluait pas toujours combien ça me coûterait de le réduire. Maintenant, il va falloir le faire pour chacun des enjeux ESG. Et puis, quand des dépenses, des CAPEX ou des OPEX sont mises en œuvre, il va falloir publier des informations assez précises en réalité sur, sur les montants en jeu. Et donc, c'est des informations qui sont évidemment scrutées par les lecteurs des rapports de durabilité, les investisseurs évidemment, les agences de notation, les régulateurs et puis les ONG aussi. Et puis les concurrents évidemment dans un même secteur de regarder, alors on a le même risque, combien il a mis lui pour réduire son risque. C'est des informations qui seront étudiées avec attention.
Donc là, on voit qu'on est, on expose quand même... c'est de manière potentiellement importante sa stratégie, son analyse de son activité, de son marché, de sa situation globale face au risque et de sa manière d'y réagir et d'appréhender l'évolution de son modèle d'affaires. Donc, bon, ce sont quand même des informations qui ne sont pas totalement anodines. Donc, bien évidemment, face à ces exigences, la question qui se pose est celle de la marge de manœuvre dont on peut disposer. Ça commence par les exceptions, ça commence aussi par, au sein de ces obligations, sur quel levier on peut jouer pour arriver à être conforme aux exigences de la directive, mais quand même en essayant de finalement de se protéger par rapport à ces informations qui peuvent avoir un caractère stratégique non négligeable, puisque précisément c'est l'un des objectifs de donner de l'information sur la stratégie. Donc on a déjà premier point dans les ESRS, dans les normes. On a quand même quelques exceptions qui sont prévues, quelques échappatoires, entre guillemets, qui sont prévues. Quelles sont-elles?
Oui, absolument. Et effectivement, alors, tout le sujet porté là sur les informations stratégiques, donc on n'est que sur des sujets très sensibles. Et les ESRS prévoient un certain nombre d'exemptions, puisque la directive CSRD n'a pas vocation à rendre public des informations qui sont couvertes par des secrets par ailleurs. Et donc, c'est expressément prévu par les textes, par les ESRS, que les informations qui sont classifiées, c'est les informations secret défense, les informations sensibles, c'est pareil, c'est tout ce qui est activité sensible, toutes ces informations-là n'ont pas à être publiées. Et si on se rend compte que les ESRS semblent exiger qu'elles soient publiées, on peut les omettre sans aucun problème, et il faut le documenter évidemment et bien garder le fait qu'on ne les a pas publiées pour ces raisons-là, mais elles peuvent être omises du rapport de durabilité sans aucune difficulté. C'est la même chose pour le secret des affaires, et c'est très clair aussi dans les textes, la directive CSRD n'a pas vocation à rendre public des informations qui sont couvertes par le secret des affaires. Et donc de la même façon, si dans le cadre des informations que vous vous rendez compte que vous devez publier, il y en a certaines qui sont couvertes par le secret, alors il faut bien remplir toutes les conditions prévues par les textes, et pour ça on attire votre attention sur l'analyse juridique qu'il faut avoir, mais si vous rentrez dans cette exemption-là, vous n'êtes pas tenu de publier l'information qui est couverte par le secret. Et puis il y a une autre exemption aussi qui est prévue, c'est sur les affaires en cours, c'est une notion un peu particulière, complètement ad hoc, prévue par la CSRD, dont on a un peu de mal aujourd'hui à comprendre les contours, mais en gros, il faut se dire que si vous avez une énorme négociation qui est en cours, et que si vous la publiez, ça met en péril votre activité, évidemment que la directive et les ESRS ne vous obligent pas à communiquer dessus. Mais voilà, il y a des exemptions qui sont prévues par les textes, et puis après, on voit que, on va voir juste après, que la façon dont sont rédigés les textes permet aussi de ne pas être transparent toujours sur tout et toujours à la même échelle.
Ça oui, c'est un premier point, il ne faut pas négliger ces exemptions, parce que c'est vrai qu'elles ouvrent un certain nombre de portes, mais ce qui veut dire aussi qu'il ne faut pas négliger les démarches qui sont nécessaires, par exemple sur le secret des affaires, les mesures de protection adéquates pour que la qualification de secret des affaires puisse être remplie, les informations sensibles, c'est plus de la documentation, mais c'est être capable de justifier qu'on est effectivement en face d'une information sensible. Donc, je conseille de ne pas oublier ces conditions d'application des exemptions parce qu'elles peuvent être très utiles dans ce cadre-là.
C'est des sujets sur lesquels nous, on se rend compte que les clients qui ont l'habitude du contentieux, et notamment avec l'autorité de la concurrence, sont sensibilisés à ces notions-là de secret des affaires parce que c'est des sujets récurrents avec les régulateurs. Et en fait, on se pose la question de savoir si l'information est couverte par un secret au moment où on nous demande de la transmettre. Mais en réalité, tant qu'on ne demande pas de la transmettre, on se pose rarement la question. Et en interne, dans les entreprises, le travail n'est effectivement pas toujours fait de se dire, bon, c'est couvert par un secret ou pas. Mais là, en fait, comme c'est des obligations de publication, effectivement, comme le disait Pierre, il y a peut-être un exercice d'analyse de qualification des informations, si certaines vous semblent difficiles à publier, et d'essayer de voir si elles ne rentrent pas dans l'une de ces catégories-là, et dans ces cas-là, on rentre dans une exemption, et c'est assez facile de ne pas la publier.
Alors au-delà de ces exemptions, on a dit tout à l'heure que les obligations de la CSRD étaient quand même assez importantes en termes de communication, de publication d'informations. Néanmoins, il y a quand même aussi, aujourd'hui, parce qu'on est dans la phase d'application, face un peu au mur de ces obligations, parfois chez certaines entreprises, peut-être une surréaction, en tout cas l'impression que c'est énorme. C'est vrai que c'est important, mais malgré tout, il y a un certain nombre de préjugés ou de choses qu'il faut un peu dissiper pour dire oui, il y a des choses qu'il faut publier, les obligations de publication sont importantes. Néanmoins, notamment en termes de granularité de l'information, les textes laissent une marge de manœuvre qui permet aussi de garder un certain nombre de choses et de ne pas ouvrir les fenêtres, les portes, les murs, le toit et en fait de tout enlever.
Oui, absolument. En réalité, déjà il faut distinguer deux choses. Les informations qu'on doit publier et les informations qu'on peut publier. Et certes, l'exercice de lecture et d'analyse des ESRS est un peu fastidieux, mais en réalité, il est primordial parce que les textes sont précis. Et quand l'information doit être publiée, ben, on n'y coupe pas. Quand elle peut être publiée, ben, il y a une option qui est laissée à l'entreprise. Après, à voir quelle est la conséquence de l'option qui est prise. Est-ce que finalement, on n'a pas intérêt à le faire? Mais en tout cas, l'option existe. Et donc, déjà une fois qu'on a déterminé si on peut ou si on doit, dans ce qu'on doit publier, il faut encore faire une autre distinction dans ce qui est exigé de publier. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'exigences des ESRS qui ne sont pas forcément des exigences de publication, mais de documentation. C'est-à-dire qu'on va demander à l'entreprise de se poser un certain nombre de questions, de faire un certain nombre de travaux, de diligences, de les documenter pour que quand l'auditeur de durabilité viendra faire son audit, il pourra vérifier que finalement l'information qui est publiée, elle est fondée sur des travaux et c'est documenté. Ou si un régulateur fait un contrôle comme l'AMF ou la H2A, c'est pareil, aura tous les éléments qu'il faut pour. Mais on n'exige pas que toutes les informations qui ont été récoltées dans le cadre de ces travaux soient publiées. Et parfois, en fait, ou même souvent, c'est seulement une synthèse. Sur les éléments financiers, on se rend compte que ça peut être des fourchettes, ça peut être juste des typologies. Et on n'exige pas toujours, enfin, et même pas souvent, des informations extrêmement précises, en tout cas sur les informations stratégiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir fait les travaux en interne et de les avoir à la disposition de ceux qui vont les examiner. Mais voilà. Et puis après, un petit focus sur les méthodes. Et on vous a mis l'exemple du calcul de l'impact financier estimé sur les risques physiques et de transition liés au changement climatique. C'est l'un des postes les plus compliqués à calculer, faire cette estimation-là. C'est un peu ce que disait Sébastien tout à l'heure. Mais en réalité, les ESRS vous disent bien, il n'y a pas de méthode de calcul qui existe encore aujourd'hui, qui est communément admise. Et donc, du coup, bah, on accepte toutes vos méthodes à vous, tant qu'elles sont expliquées et documentées. Et donc, voilà, encore une fois, pas d'exigence de comportement, une exigence de transparence par rapport à des travaux qui ont été faits en interne.
Sébastien, en pratique, cette marge et ces distinctions, comment ça se présente? Quel est l'intérêt que ça peut avoir? Comment est-ce qu'on arrive à le traduire dans un rapport et quand on fait cet exercice?
Ce pourquoi il y a beaucoup, beaucoup de questions, c'est qu'en fait, le marché n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a rien publié. Et donc, il a clairement été dit que la première année, c'est pas forcément la cible qui est attendue. D'accord ? Donc, ça veut dire que les sociétés qui sont en train de rentrer dans une logique de publication, elles vont publier une V1. D'accord ? Une fois, en fait, qu'on aura cette V1, on verra fondamentalement s'il faut publier un peu plus ou pas, ou si on est au bon niveau. Donc, je pense que ça c'est un vrai message, je dirais, qui vise à enlever un peu du stress, de la contrainte. L'idée, c'est pas de rendre sa copie finale et qu'elle sera notée. C'est, voilà, on fait la V1 et on sait qu'après, il y aura la V2, puis après, il y aura la V3. Et donc, ça, clairement, ça laisse la marge de manœuvre pour alimenter, en fait, son niveau d'information progressivement. Donc, si on a des doutes, si on a des questions, clairement, la première année, c'est pas la peine d'aller jeter à l'eau. Donc, voilà, c'est juste pas la peine. C'est ce que tout le monde est en train de se dire en disant, bah voilà, il y a certaines choses sur lesquelles, même si je pense que je suis à l'aise, en fait, et que mon information est bonne, ce que je ne sais pas et ce que personne ne sait, c'est comment elle va être perçue par le marché, comment elle va être perçue par l'investisseur. Est-ce que je risque pas, fondamentalement, d'être un peu puni parce que, bah, en fait, le marché n'existe pas. Voilà, donc ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que on a, il est accepté, il est indiqué qu'on va monter en charge progressivement. Et donc ça laisse clairement la marge de manœuvre nécessaire pour dire, bon voilà, cette année je publie vraiment tout ce qui est nécessaire et ce sur quoi je suis confortable. J'ai un certain nombre de doutes, bon ben ceux-là je les garde en stock et puis je vais voir comment le marché se forme. Voilà, ceux qui sont critiques, là franchement je les mets pas et je jugerai aussi. Et puis finalement, ben, dans la V2, on va dire, bon ben ça finalement, finalement tout le monde le publie, donc finalement je me suis fait un peu une histoire d'un truc qu'on n'est pas. Et puis donc c'est ça qui va au final permettre de calibrer le niveau d'information de chacun. Voilà. Donc ça va donner la V1, la V2. Et puis ce qui va se passer, c'est que aujourd'hui on est complètement dans une logique en fait d'offre. D'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en train de construire l'offre. Il y a zéro demande, à part la réglementation, mais la réglementation elle calibre l'offre. Et donc ensuite on va avoir de la demande. Et c'est là qu'on va mesurer le niveau d'attractivité, c'est-à-dire que est-ce que les banques vont demander des choses dans le cadre des emprunts qu'on peut solliciter ? Quel va être le niveau d'exigence des investisseurs ? Quel vont être le niveau d'exigence peut-être des assurances ? Et là, en effet, c'est dans ces échanges-là qu'on dira, bon ben, il y a des choses qui ne me semblaient pas importantes, mais finalement qui, eux, sont importantes pour eux. Donc, je vais aussi la calibrer et réajuster. Et puis, c'est comme ça, au final, en mettant en face l'offre et la demande, qu'on arrivera, je dirais, à une version stabilisée, mais dont nous, on estime que bah, c'est peut-être pas la V2, ça sera peut-être la V3. Voilà.
Oui, je crois que ce point de prudence est tout à fait fondamental et il est à relier avec un point, Alice, que tu évoquais, de la documentation. On le voit dans les lignes directrices de la Haute Autorité de l'audit et dans un certain nombre d'autres documents. Le point important, c'est de faire la démarche, de se questionner, de réfléchir, de travailler, de documenter toute la réflexion qu'on a faite, de justifier pourquoi on est un peu prudent, on est le pied sur le frein, que les auditeurs puissent le consulter, vérifier que la démarche a été faite et qu'à partir de là, on soit dans les clous de ce qui est exigé, qui est avant tout une démarche, et notamment une démarche progressive, comme tu le disais très bien, dont on sait qu'elle va se faire en un certain nombre de phases. Et d'ailleurs, ce phasage, il est même organisé pour une partie des informations par les textes eux-mêmes. Donc on doit d'autant plus considérer que il n'y a pas d'obligation d'être le bon élève au premier rang, mais que on fait les choses avec la prudence requise, qu'on ne sera pas tapé sur les doigts pour ces raisons-là, qu'on a vraiment cette perspective de phasage qui est dans la tête des législateurs.
Oui, absolument. C'est-à-dire que on vous a fait peur au début avec beaucoup d'exigences de publication et des montants à évaluer et à publier. C'est l'objectif. Il faudra le faire un jour. C'est vraiment ce qui est attendu de cette réglementation. Mais elle est entrée en vigueur très 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 rapidement. Elle a été élaborée très très rapidement. Mais il y a quand même un sas de mise en œuvre qui correspond à ce que vient de décrire Sébastien et puis Pierre de laisser les entreprises de pouvoir travailler un premier projet de rapport qu'elles vont publier sans ces chiffres-là, parce que c'est très difficile comme exercice à réaliser. Et donc, les textes prévoient en fait un régime transitoire pour un certain nombre d'obligations de publication. Nous, aujourd'hui, comme on vous parle surtout de l'impact financier, des risques que vous avez pu identifier, on s'est focalisé là-dessus, mais les textes prévoient que la première année, dans le premier rapport, vous pouvez omettre totalement d'évoquer l'impact financier des risques que vous avez identifiés. Donc tout ce dont on vient de se parler jusque-là, en 2025, sur l'exercice 2024, c'est possible de ne rien dire. Ça, c'est quand même un sas assez important qui est laissé aux entreprises. Et ensuite, il y a un deuxième régime transitoire qui est sur les trois premières années de publication du rapport, la possibilité sur ces incidences financières, sur ces impacts financiers, de ne publier que des informations qualitatives et pas quantitative, mais pour le coup, on attire votre attention, s'il est impossible de préparer les informations quantitatives. Et donc, on en revient à ce que tu viens de dire. Pour dire que quelque chose est impossible, il faut avoir essayé de le faire et ne pas y être arrivé. Et donc, il faut le documenter. Mais si c'est vraiment le cas, pendant les trois premiers rapports de durabilité, si vous n'arrivez pas, s'il est impossible d'estimer l'impact financier des risques que vous avez identifiés dans vos rapports, vous pouvez omettre cette information. Donc ça laisse un sas de mise en œuvre dont Sébastien parlait tout à l'heure, qui est nécessaire aux entreprises pour atterrir un peu et pouvoir avoir ce fameux marché et pouvoir avoir les premières estimations un peu fiables, parce que, enfin, c'est ce que vous disiez tous les deux, il vaut mieux publier une information dont on est sûr, et enfin sûr en tout cas dans la limite du raisonnable, plutôt que de publier, ben, je ne sais pas, mais comme il faut mettre un montant, je mets un montant, parce que là, pour le coup, on pourrait vous reprocher d'avoir publié une fausse information dans votre rapport de durabilité, comme une fausse information financière, une fausse information de durabilité, c'est la même chose.
Là-dessus, notamment, il y a un sujet qui vient souvent et donc qu'on peut un peu faire rentrer dans ce point-là, c'est la chaîne de valeur et la question de mais je dois rassembler toutes les informations sur toute ma chaîne de valeur, tout le monde, mais j'y arriverai pas. Justement, est-ce qu'on rentre un peu dans ce schéma-là? Est-ce que sur cette impossibilité, c'est un point.
Il faut rentrer dans les exemptions qui sont prévues par les ESRS. Donc, il y a sur tout le scope 3 la possibilité, il y a un régime transitoire aussi qui permet de ne pas publier les informations qui sont liées au scope 3 pendant une à trois ans, je ne sais plus. Mais il y a quelques exemptions qui sont possibles et qui permettent du coup d'atterrir, je ne vais pas dire confortablement parce que même trois ans, ça reste court, mais de prendre un peu plus le temps de faire les choses correctement. Et après, en fait, et on va le voir juste après, il y a un certain nombre d'enjeux ESG sur lesquels, si vous n'êtes pas en mesure de prendre des plans d'action, des politiques, etc., et vous n'êtes pas obligé de le faire, et donc vous n'êtes pas obligé de communiquer dessus, et du coup, ça vous permet d'éviter toutes ces illusions de publication.
Sébastien,
après, quand on touche à la chaîne de valeur, on touche à un autre sujet qui est plus trop la réglementation, qui est en fait les relations clients-fournisseurs. C'est-à-dire que vous pourrez toujours décider de ne pas publier des trucs. La vérité, c'est que si vos clients ils vous demandent les infos, il va bien falloir les sortir. Donc c'est là où ça commence à limiter, quoi. C'est-à-dire que si votre client veut faire un bilan carbone précis des émissions de CO2 de son scope 3 et que vous êtes son fournisseur, à un moment, ce qu'on voit quand même depuis plusieurs mois, c'est qu'il commence à poser les questions de « vous nous vendez des biens et services, merci de me donner le bilan carbone associé ». Lui, il est engagé sur une trajectoire climat 2050, trajectoire de Paris. Tous les ans, il va falloir qu'il rapporte des baisses d'émissions de CO2. En théorie, vous aussi. S'il n'a pas ces chiffres, à un moment, ça va bloquer. Donc, à un moment, il va le deux. Aujourd'hui, on est plutôt dans la phase sur « expliquez-moi un peu c'est quoi vos chiffres, quand est-ce que vous les aurez ?» À un moment, celui qui veut réduire ses émissions de CO2, il va quand même être obligé de demander à ses fournisseurs de réduire ses émissions de CO2. Si le fournisseur n'est pas capable de donner les émissions de CO2, bah, on ne pourra plus s'engager, en fait. Ça, c'est quand même, de notre point de vue, au-delà du reporting, parce qu'en fait, depuis le début, on parle de reporting et de transparence. Mais si on doit faire de la transition et transformer, la complexité de l'exercice, c'est que vous ne transformerez pas uniquement vos scopes 1 et 2, il faut prendre le 3. Et 3, dedans, il y a toute la chaîne de valeur, il y a même vos clients. Et là, si vous voulez rester dans le marché, il va falloir publier, en fait. Et c'est ce qu'ont compris les amis étrangers, dont les amis américains, qui ont bien compris qu'aujourd'hui, pour rester sur le marché français, il fallait s'y mettre à la CSRD, parce que ce qui est important, c'est de signer le bon de commande, et que l'absence de CSRD, ça peut être un problème pour signer le bon de commande. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de grandes sociétés américaines et étrangères, les Suisses, ils sont aussi en train de regarder la CSRD pour se dire, c'est pas un marché qui doit nous échapper. Ça fait des années qu'on se bat, en fait, pour avoir des parts de marché en France ou en Europe. On va pas sortir pour des raisons de la CSRD. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, on va voir si ça se cristallise autant que je viens d'exprimer, avec la vitesse associée. Mais là, la CSRD, clairement, elle pose en fait cette contrainte-là. En tout cas, elle instruit cette dimension qui fait que quand vous êtes dans le B2B, vous allez avoir ces demandes. Enfin, ça existe déjà. Vous avez aujourd'hui des grands distributeurs qui vous disent « Monsieur, si vous n'êtes pas aligné sur la trajectoire de Paris, on va être obligé d'arrêter nos relations. » Alors, ils le disent officiellement sur un très très grand compte. Et on leur dit « Bah oui, mais bon, si un tel ne le fait pas, on va quand même pas le déréférencer. » Ouais, mais le chemin, il est marqué quand même. À un moment, vous ne pouvez pas dire que vous êtes aligné sur la trajectoire de Paris, mais que vous ne pilotez pas 95% de vos émissions qui est dans la chaîne de valeur. Voilà. Là, à un moment, ça devient limitant. Voilà, donc, à la fin, quelle que soit la publication, ce que vous voulez discloser, le truc où vous ne pouvez pas couper, c'est il faut être en avant, il faut se lancer, il faut se mettre dans une logique de transition, parce que au final, ce qu'on a touché tout à l'heure, c'est qu'il faut protéger le business model. Hein. Si vous prenez mes deux exemples, hein, aujourd'hui, même si vous n'avez pas envie de faire la CSRD, vous n'avez aucune envie de mettre le personnel de votre usine en fait en chômage technique parce qu'elle a été, elle a été inondée. CSRD ou pas CSRD. D'accord. Quoi qu'il arrive, de toute façon, vous voyez bien qu'aujourd'hui, il pleut plus, demain, il fera plus chaud. Voilà, les argiles, c'est aussi des contraintes. Demain, ça peut être les terres rares. On a vu avec le cas Poutine que demain, il peut y avoir moins d'énergie. Donc, si demain, vous avez moins d'énergie, comment vous fonctionnez? Voilà. Donc, tout ça, si vous voulez, on l'appelle CSRD ou pas CSRD. À la fin, vous voyez qu'il y a des nouveaux risques qui arrivent. Et si demain, vous ne voulez pas vous mettre vos personnels, en fait, en chômage technique, il faut les adresser.
C'est là qu'on a un équilibre, en fait, entre que la conservation de l'information peut avoir comme effet protecteur et peut aussi avoir comme effet négatif, comme effet de bord, parce que finalement, publier de l'info, c'est aussi rassurer ses partenaires, c'est donner de la sécurité au marché, et parfois on a besoin de donner cette sécurité au marché, la CSRD est là aussi pour finalement permettre de le faire dans un cadre, donc c'est une question d'arbitrage entre des intérêts divergents, c'est finalement ce que permet quand même de faire la CSRD, c'est qu'elle permet de faire cet arbitrage, elle permet finalement de se dire, bon, cette information-là, est-ce que j'ai plus ou moins intérêt à la conserver, à la sortir ou pas? Ce qui dépend aussi, en fait, un peu d'où on en est, de ce qu'on fait, comment on le fait, et en fonction de l'état d'avancement, si je suis bien avancé, je publie, si je ne suis pas bien avancé, je ne publie pas, et d'ailleurs, parce que je ne suis pas obligé de publier, si sur un certain nombre de choses, je n'ai pas fait, je ne suis pas obligé de publier, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas obligé de... que j'ai pas quand même une obligation résiduelle de publication.
Absolument. Et c'est effectivement le dernier point sur lequel vous voulez attirer votre attention. Parce que, vous l'avez compris, il faut identifier les enjeux ESG qui sont importants pour vous. Et puis, une fois que vous les avez identifiés, vous avez un certain nombre d'exigences de publication qui sont liées à ces enjeux. Ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est que vous deviez publier des montants sur les plans que vous allez mettre en œuvre, des informations sur les politiques que vous avez définies, les objectifs, on parlait de trajectoire carbone. Et donc, une fois que vous rentrez là-dedans, vous êtes soumis à l'obligation de publier beaucoup d'informations. Là, ce qu'on entend, c'est que les entreprises ont tellement d'enjeux ESG identifiés ça nécessite énormément de travail pour identifier sur chacun d'entre eux quelle est la politique qu'elles entendent mener, quels sont les plans d'action qu'elles entendent mener, quels sont les objectifs qu'elles veulent se fixer sur chacun d'entre eux. Et c'est assez colossal comme exercice à mener sur tous ces enjeux ESG. Et en réalité, les ESRS, la CSRD, n'imposent pas aux entreprises d'établir ces politiques, ces plans d'action et de se fixer des objectifs. À chaque fois, on vous dit, vous pouvez le faire. Si vous en adoptez, si vous fixez des objectifs et des politiques et des plans d'action, vous devez communiquer dessus conformément aux ESRS. Mais si vous n'en avez pas adopté, vous pouvez ne pas l'avoir fait. mais il va falloir que vous expliquiez pourquoi vous ne l'avez pas fait. Et en réalité, c'est là qu'on voit que peut-être dans les premiers rapports, si c'est trop difficile et compliqué de remplir toutes les exigences de publication sur tous les enjeux ESG identifiés, on pourra peut-être voir des enjeux ESG sur lesquels les entreprises diront « Bon, ben, en fait, cette année, je me suis concentrée sur ceux qui étaient tout en haut de ma matrice de double matérialité. Celui-ci, il est plutôt tout en bas. Et donc, du coup, j'ai mis tous mes efforts là-dessus. J'ai fixé des politiques et des plans d'action sur ceux qui étaient les plus importants pour moi. Et celui-ci, il est un peu moins... Il est important, sinon il serait pas dans ma matrice. Mais il est un peu moins important. Et du coup, sur celui-ci, j'ai rien fixé encore. Et donc, je ne publie rien. » Il faut expliquer donc les raisons pour lesquelles on n'a pas fait. Et après, le texte dit on peut dire dans quel délai. C'est-à-dire qu'on n'est même pas tenu de dire « Bon, je ne l'ai pas fait cette année, mais je m'engage à le faire l'année prochaine. » Et donc, c'est là qu'on voit qu'il y a une option, une liberté qui est laissée aux entreprises d'organiser la façon dont elles vont récolter les informations et remplir les exigences de publication. Après, ben, c'est ce que vient de dire Sébastien avec son exemple. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on se fait un peu rattraper par la patrouille parce que quand on ne publie pas ces plans d'action et ces cibles et ces objectifs sur des enjeux qui ont été considérés comme matériels, ça veut dire qu'on ne s'en est pas fixé, puisque c'est le critère pour pouvoir bénéficier de l'option. Et en fait, on dit au marché, bon, bah, j'ai identifié un risque, mais pour l'instant, je n'ai rien fait. Et je n'ai même pas commencé à réfléchir à comment je pourrais le traiter. Et donc, du coup, c'est évidemment un signal qui n'est pas très bon. Et donc, on ne vous recommande pas de rester dans cette situation-là très longtemps, mais en tout cas, dans un premier temps, c'est vraiment une option qui vous est laissée sur ces sujets-là. Et c'est la même chose sur le plan de transition sur lequel on a évidemment beaucoup de questions. Est-ce qu'on est obligé d'établir un plan de transition et de le publier? Alors, on a tendance à dire oui, parce que tout le monde est parti sur l'établissement d'un plan de transition, parce que le risque climatique est souvent l'enjeu le plus important qui est identifié par les entreprises. Mais de la même façon, les ECRS prévoient qu'on n'est pas obligé de le faire si on n'en dispose pas. Et donc, si vous n'établissez pas de plan de transition, eh ben, vous n'êtes pas obligé de le publier. Et vous devez juste expliquer et préciser si vous avez prévu d'en avoir un, et si oui, dans quel délai. Mais c'est tout, il faut juste dire que vous n'en avez pas. C'est pareil, c'est pas un très bon signal qui est donné au marché, à vos investisseurs, etc. Mais selon le cas de figure dans lequel vous êtes, en tout cas, c'est une option qui vous est laissée. Et c'est la même chose pour les cibles climatiques et pour les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, c'est pareil. Si vous n'en avez pas fixé, si vous ne vous fixez pas d'objectif, vous n'êtes pas tenu de publier toutes les informations qui sont prévues par les ESRS. Il faut juste préciser dans le rapport que vous ne l'avez pas fait et expliquer les raisons pour lesquelles vous l'avez pas fait.
Alors, on va passer, je pense, à la phase des questions où Sébastien, tu pourras, le cas échéant, compléter. Donc, il y a au moins deux questions qui sont passées sur le chat. Alors, il y en a une première qui était sur les périmètres, définition des informations sensibles, classifiées qu'on évoquait tout à l'heure. Comment est-ce que on les définit? Comment est-ce qu'on établit les périmètres de ces informations-là?
Oui, mais en fait, les ESRS renvoient à des règlements européens qui définissent, c'est très précis en réalité, et on peut pas mettre n'importe quoi dedans. C'est des définitions qui sont précisées par des règlements européens, celui sur le secret défense et sur les informations sensibles.
L'autre question était sur le scope 3. Comment gérez-vous le double counting du scope 3, Sébastien?
Il faut rappeler le principe. Donc, le principe du scope 3, c'est typiquement, j'achète ce micro, un fournisseur, et donc je vais venir mettre dans mon bilan carbone du scope 3 les émissions de CO2 de ce micro. Voilà. Sachant que dans mon scope 1, je vous rappelle que j'ai fondamentalement toutes les consommations par exemple d'énergie que je peux avoir ou l'électricité, etc. Donc la question c'est donc je vais venir mettre en fait cet appareil dans mon scope 3. Cet appareil il est aussi en fait dans le scope du fournisseur, d'accord, et donc il est comptabilisé en tant que tel. Dans les accords de Paris, ce qui est donc demandé, c'est que je réduise mes scopes 1, 2 et 3 de moins 90% d'ici 2050. Donc ça veut dire que la relation que je vais avoir avec mon... Donc ça veut bien dire que ce micro est comptabilisé dans le bilan du fournisseur et dans mon bilan. D'accord ? Ce qui m'est demandé dans le cadre des accords de Paris, c'est de baisser mes émissions de CO2 90% d'ici 2050. Donc ça veut dire que la relation que je vais créer avec mon fournisseur, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, la première question que je vais poser, c'est ce micro, quel est le poids en CO2 comme ça, ça c'est 85 kg, ça c'est peut-être 25-30. D'accord, 25-30 kg, donc ça c'est la première question qu'on va lui poser, on va lui dire voilà, 25-30, je t'en achète tous les ans, l'année prochaine il faut que tu me fasses à 20. Voilà, donc, et moi je vais venir du coup tous les ans lui demander en fait quelles sont les émissions de CO2 de son micro, il va baisser, et donc je vais cumuler de mon côté ces baisses, et il va les cumuler également. L'important c'est du coup, là vous voyez que j'ai un bilan individuel, j'ai mon bilan, j'ai son bilan, on est tous les deux dans une logique de descente, mais on n'additionne pas nos bilans tous les deux, puisque évidemment, en fait, le micro serait compté deux fois. Mais l'exercice qui est demandé, c'est votre périmètre, le scope 1, le scope 2, le scope 3. Personne additionne, en fait, les périmètres de toutes les entreprises. D'accord ? Et donc, vous voyez que là, dans l'exemple que je vous donne, la relation que vous avez sur ce micro, on ne vous demande pas, vous, de le démonter puis de faire baisser les émissions. De toute façon, c'est les émissions de fabrication. Donc, ce n'est pas le sujet, mais vous voyez que dans l'exemple que je vous donne, vous allez du coup changer votre relation avec les fournisseurs. Donc moi, j'ai un objectif de neutralité carbone en 2050, un alignement avec les accords de Paris. Je vais donc commencer à me poser la question de tous les biens et services que j'achète, puisque si je dois les réduire, il faut que je connaisse ce chiffre. Et d'ailleurs, le fournisseur va vous dire, bah, moi, je peux te le faire moins cher, il y a pas en CO2. On va juste enlever les deux parties sur les côtés, et ça va te correspondre. Et là, évidemment, quand vous avez plus uniquement une dimension prix, mais une dimension CO2, vous allez dire, ouais, les deux côtés, là, j'en ai pas besoin, on va rester sur ce qui est fondamental. Donc, c'est ça aujourd'hui le type de discussion qu'on commence à avoir en fait avec certains clients dans une question qui est dites-moi les émissions de CO2 qui sont liées au bien et service.
Troisième question. Alors, juste, je sais que mettre sa caméra, son micro, ça consomme de la bande passante, mais c'est pas forcément moins durable que de poser la question sur le chat, donc n'hésitez pas, c'est toujours agréable d'échanger aussi. Visuellement et par la voix, mais je pose donc la question, même pour les sous-sujets évalués comme matériels, par exemple diversité sous S1, pas d'obligation, pas d'obligation de publier les politiques, actions et cibles.
En fait, c'est pas qu'il n'y a pas d'obligation de publier les politiques, actions et cibles, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de les déterminer. Si elles sont déterminées, il faut publier. Mais il n'y a pas d'obligation de les déterminer. Vous avez l'obligation d'évaluer vos enjeux ESG, vos risques, et de faire la matrice de double matérialité. Mais après, pour chacun des risques que vous avez identifiés, vous pouvez ne pas déterminer de politique, plan d'action et objectif. Et si vous n'en avez pas déterminé, et ben vous ne publiez rien, sauf à expliquer pourquoi vous n'en avez pas déterminé. Et donc oui, aussi, ça marche pour tous les enjeux ESG que vous avez identifiés, et du coup pour toutes les ESRS thématiques, et y compris S1.
Alors j'ai aperçu un morceau de question.
C'était une question liée aussi à l'offset du scope 3, éviter qu'il y ait du double counting dans ces offsets.
Alors, donc, les accords de Paris, donc deux conditions, je n'ai parlé que d'une seule partie. Accord de Paris, trajectoire de neutralité carbone, moins 90% à 2050, et capture des 10% restants. D'accord ? Scope 1, scope 2, scope 3. D'accord ? Donc c'est ça la notion, donc, quand on parle de compensation carbone. Il y a globalement deux dimensions, il y a je compense et je capture. D'accord ? Je compense et je vais donner de l'argent à une société qui plante des éoliennes, ça va faire de l'électricité renouvelable, et donc j'ai d'autres personnes qui n'émettront pas du CO2 parce qu'ils vont utiliser cette électricité décarbonée. Ça s'appelle de la compensation. La capture, c'est je plante des arbres, et donc j'ai émis des émissions de CO2, j'ai émis des molécules de CO2, et j'ai un arbre qui vient capturer en fait ce CO2. Donc vous voyez que dans la trajectoire de Paris, on ne vous demande pas de compenser, on ne vous demande pas de faire des chèques à tout le monde pour planter des éoliennes, on vous demande en fait d'avoir des projets qui vont capturer ce CO2. Donc on est vraiment dans une dimension physique. On vous demande de le faire en fait sur tous vos scopes, les 10% restants qui sont donc le scope 1, le scope 2, le scope 3. Aujourd'hui, la maturité du marché, c'est d'abord de travailler sur la réduction, d'accord, et pas de travailler sur la capture. À partir du moment où vous devez diminuer de 90%, on va d'abord réduire les 90% et après on va dépenser de l'argent. Parce que même si c'est à 3 ou 5 euros la tonne, ou 15 euros la tonne si vous êtes dans les forêts ou plus cher, ça va vous coûter une fortune en fait. Ça va juste vous coûter une fortune. Donc aujourd'hui, la stratégie c'est d'abord on réduit et ensuite on va capturer. D'accord ? On verra combien on capture, on verra s'il y a des projets qui sont en situation de capturer, mais le sujet de la capture, c'est pas le sujet de tout de suite. D'accord ? Ce qu'on pense, nous, c'est que, si je reprends le cas du micro, voilà, aujourd'hui, donc mettons que vous êtes en 2050, donc vous avez réduit le poids du micro de 90%, ce qui challenge quand même. Et donc, c'est quand même très probable que votre fournisseur vous disait, bon, bah, tu l'as réduit de 90%, mais c'est pas moi qui vais acheter des arbres pour toi, en fait. D'accord ? Donc, en fait, ton truc, c'est bien, mais c'est toi qui vas payer, en fait, la capture de ton truc. Moi, je vais déjà capturer mes propres émissions de scope 1 et 2, et donc, dans la relation commerciale, on risque quand même beaucoup plus d'être dans une logique qui est, bon, bah, tu l'as réduit de 90%, les émissions de CO2 en fabrication, mais merci de me confirmer qu'en plus, tu as fait les projets pour capturer les 10 restants. D'accord ? Parce que sinon, s'il faut que moi, je paye toutes les captures, en fait, de tout mon fournisseur, lui, là, pour le coup, on va double compter. D'accord ? Parce que lui, il a fait lancer des projets pour capturer le 1, le 2 et le 3. D'accord ? Et donc, on va capturer deux fois. Donc, aujourd'hui, on n'en est pas là. La première question, c'est comment on réduit. D'accord ? Et la deuxième, et logiquement, quand on va arriver dans cette dimension-là, on va très certainement rentrer dans une dimension commerciale qui est, moi, je veux bien te l'acheter, mais il faut que la capture elle soit payée par toi.
Alors, on a une question qui sera, je pense, la dernière. Est-ce que le fait que certains pays n'aient toujours pas transposé la CSRD peut faire en sorte que nos concurrents dans ces pays publient plus tard? Premier élément de réponse, je l'ai fait compléter, mais aujourd'hui, quand même, un certain nombre des pays européens qui ont fait l'objet de la mise en demeure par la Commission ont indiqué qu'ils transposeraient d'ici la fin de l'année. Donc, de toute façon, ils auraient un dispositif en place pour répondre à l'entrée en application du texte et donc qu'il y ait un rapport sur le premier exercice prévu par la CSRD. Et d'une certaine façon, pour eux, ça sera peut-être un désavantage puisque ils auront moins de temps pour se préparer et ils seront plus vite confrontés à la difficulté. Donc ça, c'est un premier point. Après, sur le reste, c'est difficile de dire, oui, il peut y avoir, les Suédois ont décalé d'un an, donc s'ils se conforment au droit local, ça sera différé d'un an. Après, ça expose toujours à un contentieux et une interprétation du droit suédois, selon la directive, et potentiellement un juge qui pourrait considérer que ça ne tient pas la route.
Oui, absolument. Mais c'est des questions qui sont compliquées parce que les ESRS, c'est un règlement européen donc qui s'applique directement. Sauf que pour qu'il s'applique directement, il faut qu'il y ait quand même un texte français qui prévoit à qui il s'applique. Et c'est notamment pour ça que nous, on a transposé et qu'on sait à quelle typologie d'entreprise française les ESRS s'appliquent. Et si on n'a pas cette transposition dans les autres pays de l'Union européenne, eh ben on peut se demander si dans leur droit il y a un moyen de rattacher les ESRS à une obligation de publication ou pas. Et s'il n'y en a pas, on pourrait tomber dans le cas que vous évoquez d'avoir un décalage dans l'application. Mais comme les textes ne sont pas du tout prévus pour prévoir cette liberté-là aux États membres, c'est une source de contentieux importante.
Bien, on arrive au terme de ce webinaire. Merci encore Alice, Sébastien pour vos interventions, vos précisions. Merci à vous pour votre attention et on est à votre disposition, notamment au comité Finances durables et Reporting ESG pour répondre aussi à d'autres questions et n'hésitez pas à suivre nos publications. On va publier un guide début 2025 sur les sujets CSRD et différents autres éléments. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre ce que l'on fait. Merci à tous, bonne fin de journée. Merci.
Vous avez des questions liées à cet enregistrement ? Rendez-vous sur le site lacademiemedef.fr.